élections 2023 sur Radio Capi. Invité, candidat président.
Rex Kiazadi Kanda est celui que nous recevons aujourd'hui dans les cadres de notre émission présidentielle 2023. Il est le candidat numéro 10, candidat indépendant. Et promet un changement révolutionnaire. Monsieur Kazadi, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, Michel Kifinda.
Bonjour, Kelly. Alors, nous allons nous entretenir avec vous pendant 30 minutes, monsieur Rex Kazadi, sur les questions liées à la gouvernance, au développement économique et social, à la cohésion nationale, mais aussi à l'éducation.
Okay. Mais avant d'aborder tous ces aspects, monsieur Rex Kazadi, dites-nous pourquoi vous voulez briguer la magistrature suprême pour les 5 prochaines années.
Je brigue la magistrature suprême, c'est comme, comment vous dire, je veux du changement dans mon pays, comme la plupart des Congolais. Je veux que les choses s'améliorent. Lorsque je constate la gestion actuelle du pays, lorsque je constate la misère dans laquelle est mon peuple, je me devais de m'engager. Ça fait plusieurs années que je suis engagé au niveau de la société civile, mais je ne voyais pas en fait des réels changements pour l'ensemble de la population. Donc je me suis dit de quelle manière moi je pourrais contribuer à un changement radical dans ce pays. J'ai vu que la présidence correspondait réellement à l'ambition que j'avais pour un changement global qui touchera un maximum de personnes. Donc je me suis engagé pour l'élection présidentielle.
Alors, la République démocratique du Congo est souvent mal cotée par les institutions internationales. Si vous lisez les rapports Doing Business, Transparency International, Banque mondiale, la RDC occupe généralement la queue de la liste de pays au monde par rapport à la gouvernance politique notamment. Comment comptez-vous corriger cette situation?
D'abord, ce n'est pas ma préoccupation, c'est que pensent les autres de nous. C'est ma préoccupation numéro un, principale, elle est la situation des Congolais. La sécurité des biens et des personnes congolais. La possibilité que les Congolais puissent sortir de la misère crasse dans laquelle ils sont. Ça, c'est mon souci. Si déjà, à l'intérieur du pays, nous pouvions déjà répondre aux exigences des Congolais, on verra ensuite la place que nous occuperons au niveau extérieur. Pour l'instant, ce n'est pas une préoccupation pour moi. Le plus important, c'est les Congolais et ce que veulent les Congolais.
Mais les Congolais veulent la bonne gouvernance, ils veulent le changement. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour apporter ce changement?
Pour apporter ce changement, je vais d'abord réduire les dépenses de l'État. Est-ce que vous vous imaginez que l'État consomme 71% du budget national? 71%. Ça veut dire que nous avons un budget d'à peu près 16 milliards. Sur les 16 milliards, il y a à peu près 9 milliards. C'est l'État. Donc il faut réduire, il faut absolument de manière drastique réduire l'argent dépensé par l'État. Donc, comment faire pour le réduire? Nous réduisons l'Assemblée nationale. De 500 députés, on va descendre à 200. D'un salaire de 21 000 dollars, on va descendre à 3 500 dollars. Je pense que c'est convenable pour un député d'avoir 3 500 dans un pays pauvre comme la nôtre. Une personne qui touche déjà 3 500 dollars, c'est une personne qui est considéré comme étant au minimum de la classe moyenne ou sinon de la classe supérieure.
Mais comment vous allez faire concrètement dans les 5 prochaines années? Donc, vous allez commencer par réviser la Constitution,
évidemment,
et puis dissoudre le Parlement.
Évidemment.
Vous ne pensez pas que vous risquez de perdre tout votre temps dans les réformes plutôt que dans les actions concrètes?
Vous savez, lorsque vous avez la volonté politique de faire les choses et que vous avez le soutien du peuple, ça se fait très vite. Il n'y a pas besoin de prendre une année pour dissoudre une assemblée, et il n'y a pas besoin de prendre 5 ans pour mettre comme fonctionnement, nous réduisons le train de vie de l'État. Le train de vie de l'État, c'est suppression de l'Assemblée nationale. Il n'y aura plus d'Assemblée nationale. Dépense de l'argent. Moi, si je pose la question à un Congolais lambda dans la rue, les sénateurs congolais vous apportent quoi? Qu'est-ce que les sénateurs congolais apportent aux Congolais? Dans leur vie quotidienne, dans leur misère, qu'est-ce qu'ils apportent aux Congolais? Zéro. Rien du tout. Les députés sont là pour censer voter les lois, mais on les paye 21 000 dollars. Qu'est-ce qui explique qu'on les paye si cher? Pour quelle raison on leur donne des jeeps chaque début de mandature, alors qu'on a des paysans qui cherchent des camions, des véhicules pour pouvoir travailler et faire et développer l'agriculture congolaise. À eux, on ne donne rien. On ne donne pas d'engrais. On ne donne pas les moyens aux agriculteurs de pouvoir nourrir le peuple, mais on investit des millions et des millions pour des individus, pour préserver le monopole d'un pouvoir, pour préserver les monopoles de certains amis qui veulent rester et dilapider l'argent de l'État congolais. Ça, non. C'est pour ça, suppression du Sénat, suppression de 300 députés, on a besoin que de 200 députés pour un pays comme la RDC, pas plus. Rien que là, nous allons faire des économies. Suppression, on a aujourd'hui 62 ministres. Pourquoi ? 12 ministres, c'est suffisant. 12 ministres, on prend les ministères régaliens, la défense, la sécurité, la santé, l'économie, les finances, etc. Et deux, trois autres ministères, ça suffit. 12 ministres, point. Et puis derrière ça, dans une autre réforme, on va supprimer la possibilité pour les gouverneurs d'être élus de manière indirecte. Si les gouverneurs vont être élus de manière directe par la population, il n'y aura plus d'assemblée provinciale, il y aura des conseils provinciaux avec à l'intérieur l'opposition et la majorité qui vont être là pour gérer les régions. Donc avec cette simplification de l'État, déjà rien que là, nous gagnerons de l'argent. La deuxième chose, pour avoir de l'argent au Congo, nous devons lutter contre la corruption. Un ancien ministre du PPRD disait que la corruption nous coûtait chaque année 15 milliards. Vous imaginez ? 15 milliards.
Spécial, oui.
Alors, on marche sur la tête. Si vous comptez, rien que moi, je dis même pas de l'argent qu'on va avoir. Je parle même pas d'investisseurs. Je parle de déjà la gestion de l'argent que nous avons. 16 milliards. 9 milliards utilisés pour prendre des avions. Le chef de l'État a fait 325 voyages. Combien il a fait rentrer d'argent dans les caisses de l'État ? La corruption, des détournements des deniers publics. Il faut faire telle route, les 100 jours, les rames, etc. Où va cet argent ? Et avec tout ça, il y a 9 milliards quand l'argent arrive sur la table, 9 milliards du contribuable, qui est utilisé que pour les politiciens. C'est les politiciens qui se gavent dans ce pays. Et pendant ce temps, la population meurt dans la misère. Il faut une personne, un homme qui arrive, qui doit dire « Stop ! Il faut casser ce système. » Et je suis cet homme-là. C'est pour ça que je me suis présenté. C'est vraiment pour que les Congolais puissent savoir qu'il y a des hommes qui viennent avec un objectif précis, le changement radical.
Et parmi vos priorités, vous avez cité la sécurité. Aujourd'hui, la RDC fait face à d'énormes problèmes de sécurité dans toute sa partie orientale. Aujourd'hui, même dans sa partie ouest, avec le phénomène Mobondo, si vous êtes élu président de la République, Monsieur Kazadi Rex, que comptez-vous faire pour pacifier cette partie de la République et restaurer la paix sur l'ensemble du territoire congolais?
Ok. J'ai entendu certains de mes collègues dire qu'ils allaient arrêter la guerre en 6 mois. Moi, ce n'est pas ce que je dis. Parce qu'on sait quand on commence la guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la terminer. La première chose que moi je fais, je me repose d'abord sur nos militaires à nous, sur nos forces militaires, sur nos forces armées, sur notre police, et nous faisons une mobilisation pour monter en puissance. Aujourd'hui, au bas mot, on nous dit que nous avons entre 10 à 20 000 forces combattantes capables d'aller au combat. Nous devons faire une mobilisation pour monter à 300 000. La mobilisation, c'est simple. C'est d'appeler les Congolais à venir rejoindre l'armée congolaise. Avec un salaire minimum de 400 dollars, ce qui n'est pas encore le cas dans l'armée actuelle, à 400 dollars, aujourd'hui, ça nous coûte à peine les salaires, à peine 1 milliard 400 000. Dans un budget large comme nous avons aujourd'hui, nous pouvons non seulement avoir 300 000 hommes payés chaque mois, en plus de ça, nous pouvons avoir des équipements corrects, parce qu'il faut faire une audit de l'armée. Aujourd'hui, nous ne savons pas qu'est-ce que nous possédons réellement dans notre armée. J'ai entendu dernièrement le chef de l'État dire que nous avions 3 drones. C'est risible. Avec 3 drones, vous faites la guerre à personne. Vous pouvez défendre personne. Il nous faut des centaines de drones, des milliers, voire des milliers de drones. À côté de ça, il nous faut des avions de combat, des avions de chasse. L'armée congolaise possède à peu près, elle avait acheté 10 de Sukhoi, que vous avez pu voir à Goma, qui avait été touché par l'armée rwandaise, sans réaction de la part de notre état-major. Ça doit cesser. Il faut d'abord auditer l'armée, savoir combien nous avons de militaires capables, savoir combien nous avons d'armes. Ensuite, équiper nos armées, équiper nos soldats avec de nouvelles armes. Il faut aller acheter. Nous avons les moyens d'aller acheter. Il faut aller acheter, il faut prendre des crédits, il faut aller acheter des armes. Acheter des armes, équiper nos militaires et ensuite avoir une véritable politique d'autodéfense. Le Congo n'a jamais agressé aucun pays. Mais le Congo ne peut plus supporter d'être agressé, que nos femmes et nos enfants soient violés, que le territoire congolais soit violé en permanence. Donc nous devons systématiquement répondre à chaque attaque que nous subissons. Et c'est de cette manière que nous allons récupérer les territoires perdus de la République, et c'est que de cette manière que nous allons nous faire respecter et ramener la paix. Et pour moi, c'est une priorité. Parce que sans paix, sans sécurité, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de politique pour la santé, il n'y a pas de politique éducative. Vous avez beau faire toutes les politiques éducatives que vous voulez, vous avez beau faire toutes les politiques économiques que vous voulez, si les gens peuvent rentrer chez vous du jour au lendemain et tout voler, tout casser, tout violer, vos femmes et vos enfants, vous avez investi dans le néant. Donc la priorité des priorités au Congo, au jour d'aujourd'hui, c'est la sécurité. Donc nous devons faire une audite, savoir combien nous avons de militaires, combien sont prêts pour le combat, combien il faut mettre sur la table. Et j'ai déjà des plans de un peu plus détaillés sur le nombre d'armes, ce qu'a acheté ou comment. Ça, je le sais déjà.
Ces ambitions sécuritaires exigent un investissement assez important. Et la RDC, aujourd'hui, est un pays aux multiples ressources naturelles. Quand vous voyez sa faune, sa flore, ça ne correspond pas en réalité avec la réalité de son économie et de la pauvreté de sa population. Comment comptez-vous opérer ce qu'on pourrait appeler le miracle congolais pour arriver à hisser la RDC parmi les pays puissants économiques sur le plan africain?
Ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. La réalité de ce que vivent les Congo et la réalité de ce qui est notre pays est totalement différente. Vous savez pourquoi? La classe politique congolaise a vend nos terres à des étrangers, à des sociétés étrangères. Beaucoup de gens, les étrangers qui viennent au Congo, se font des milliards. Vous vous souvenez de Dan Gettler qui a acheté des terres au Congo à moins de 2 ou 3 millions, mais qui a pu, en revendant les mêmes terres, multiplier ça fois 200. Il a vendu des open terres, il a acheté des open terres à moins de 10 millions aux Congolais, à certains responsables politiques congolais, et il les a pu les revendre à des entreprises à plus de 200, 300 millions. C'est le problème que nous avons. Nous avons un problème de gestion. Nous avons un problème de justice. C'est pour ça que, après la sécurité, le numéro 2 dans mes priorités, c'est la justice congolaise. La justice congolaise doit être capable de mettre en prison tous ceux qui détournent l'argent, tous ceux qui volent les deniers publics, tous ceux qui ne respectent pas les missions qui leur sont assignées. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans la gestion des biens publics, vous ne pouvez pas, lorsqu'on met de l'argent, faire disparaître. On ne peut pas investir 400 millions ou 40 millions pour un projet et puis on se retrouve que le projet, finalement, n'a même pas coûté 2 millions et qu'il y a presque 39 millions qui a disparu. Et puis vous restez là et vous continuez à travailler. Et vous restez là, vous continuez à marcher dans la rue comme si rien n'était. Le véritable problème, c'est le problème de justice. Avec une justice, une police qui arrête les gens qui commettent des infractions, mais une justice derrière condamne, il n'y a que de cette manière que nous allons stopper cette mégestion des biens publics et de la terre congolaise. Aujourd'hui, les Congolais, le seul moment où les Congolais se rapprochent des richesses congolaises, c'est quand on les enterre. Toute leur vie, ils sont au-dessus des richesses, ils ne les touchent pas. Ils se rapprochent de ces richesses que quand on les met sous terre. Donc ça, c'est un scandale qui doit s'arrêter.
Mais puisque vous parlez de justice, M. Rex Kazati, comment allez-vous vous y prendre pour rendre cette justice véritablement efficace, indépendante, au service de tous?
Auditer la justice. Nous devons connaître exactement où sont les failles de la justice. Pour connaître les failles, nous devons l'auditer. On audite une justice pendant 1-2 mois. On fait un rapport. On regarde les Congolais, comment ils voient leur justice. Comment se passent les arrestations. Qui sera libéré. Il y a, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi une affaire des katakata, je ne sais plus quoi. Une maman est venue pleurer parce qu'elle a reconnu, parmi les personnes qui faisaient des kidnappings, une personne qui avait tué sa fille, comment cette personne qui avait été condamnée à perpétuité a pu se retrouver libre et recommencer à kidnapper des Congolais. Donc à un moment donné, il y a une personne, il y a un juge qui a signé un papier pour qu'on le libère. Qui est ce juge? Qui est ce juge? Nous sommes incapables, nous, de savoir que telle prison, telle heure, telle personne, tel nom a été libéré à telle heure. On a ce papier. On sait le trouver. Ok? Lorsque nous réperons ce papier, c'est telle personne qui l'a libéré. Mais la personne qui l'a libéré doit rendre des comptes devant la justice. Elle doit rendre des comptes devant la justice. Si on doit créer une justice spéciale pour condamner les juges qui ne font pas leur travail, on la créera. Si on doit créer une commission spéciale pour condamner les policiers qui ne font pas leur travail, on le créera. Si on doit créer une justice spéciale pour arrêter les ministres qui volent, etc., on la créera. C'est juste une question de volonté politique. Si vous avez la volonté de le faire, vous sélectionnez parmi vous des hommes et des femmes intègres et le Congolais, le Congo en est rempli. Des hommes et des femmes intègres, il y en a beaucoup dans ce pays. Sauf que ceux-là, on les met de côté. Vous vous souvenez du juge Yanni qui est mort en ayant fait son travail correctement. C'est un homme de grande qualité. C'est un homme de grande qualité qui a condamné le ministre de l'économie à 20 ans de réclusion criminelle, à 20 ans de travaux forcés, avant qu'il soit relâché pour des raisons politiques, sans que jusqu'aujourd'hui, aucun Congolais ne sait où sont les 75 millions détournés par Vital Kamerhe. Ça doit s'arrêter. Le vrai problème, c'est à la tête du pays. C'est pas tout autour. Si vous avez à la tête du pays des hommes qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'ambition de changement, qui n'ont pas l'amour du Congo, qui n'ont pas l'amour des Congolais, eh bien, il va se dérouler ce qui se déroule. Une justice qui est incapable, une police qui ne protège pas, des hommes et des femmes qui se font attaquer, violer, l'armée qui est incapable de protéger les frontières, et puis une partie de notre territoire qui est occupée. C'est la conséquence de la mauvaise gestion de l'État.
Parlons éducation. Aujourd'hui, le président de la République, Tshisekedi, le président sortant, a lancé la gratuité de l'enseignement qui a permis à un nombre important d'enfants congolais à reprendre le chemin de l'école. Mais on constate aussi que les universités congolaises, par exemple, produisent plus de chômeurs que des travailleurs puisqu'il n'y a pas d'emploi et on ne sait pas en créer. Comment comptez-vous reformer le système éducatif congolais et surtout l'école des métiers?
Moi, je suis pour la gratuité de l'enseignement. Je suis pour la gratuité de l'enseignement jusqu'à l'université. Ça, je suis pour. La gratuité de l'enseignement prônée par M. Tshisekedi n'a pas véritablement fonctionné en termes de qualité. Pour la simple et unique raison, du jour au lendemain, des classes où il y avait 15-20 élèves se sont retrouvés à 90, 100, voire 120 personnes. À 120, avec un professeur, vous n'étudiez pas correctement. Et puis, derrière ça, l'argent que donnaient les parents pour les Minerval, il fallait remplacer ça pour le fonctionnement des écoles. Cet argent arrive au compte-gouttes en retard de la part de l'État. Et puis, toujours dans le même cas, on a des professeurs qui se plaignent de ne pas être payés. Un professeur qui n'est pas payé, c'est un professeur qui ne fera pas un enseignement correct. Comprenez? Moi, ce que je dis, enseignement primaire, secondaire, et au bout d'un moment, à l'âge d'adolescence, il faut voir les qualités des enfants et voir les besoins du pays. Le Congo a besoin de quoi? Le Congo a besoin de reconstruction. Donc nous avons besoin de personnes dans le BTP, dans la reconstruction, dans le bâtiment, dans tout ce qui est construction de routes et autres. Nous avons besoin de Congolais dans l'agriculture. Nous avons besoin de Congolais dans l'élevage. Parce que ça, ce sont les secteurs de développement prioritaires pour la RDC de demain. Les Congolais ont besoin de pouvoir, pour être en bonne santé, de pouvoir être dans l'autosuffisance alimentaire, de pouvoir manger à leur faim, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous avons 19 millions, vous imaginez, 19 millions de Congolais qui sont en urgence alimentaire sévère. Certaines personnes mettent 2 jours avant de manger ou avoir quelque chose dans leur bouche. Dans un pays où il suffit de jeter une graine, un arbre pousse le lendemain. Vous comprenez? Il n'y a pas de politique agricole. J'ai vu dernièrement que le gouvernement actuel voulait mettre une politique agricole où ils allaient faire du coton et des épices. Les Congolais ne vont pas manger du coton et des épices. Les Congolais, ils ont besoin de manioc, ils ont besoin de riz, ils ont besoin de banane plantain. Les Congolais, ils ont besoin de viande, ils ont besoin de poulet. C'est ça que les Congolais, ils ont besoin. Et maintenant, pour que ces denrées puissent arriver dans le pays, il faut des routes. Et c'est la colonne vertébrale de l'économie congolaise. Il faut des routes. Comment Aujourd'hui, même si on met des engrais, on développe l'agriculture sur l'ensemble du pays. Comment les gens de Boma peuvent manger la viande qui a béni? Il faut des routes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne va pas l'envoyer en avion. Et pour que ça puisse venir, il faut des camions frigorifiés. Grâce à une politique intelligente, si nous créons des routes, nous permettrons à des Congolais lambda d'acheter des camions et de faire du business. Et grâce à ça, ils vont employer des gens et ils vont tuer le chômage. Vous comprenez? Et ils vont permettre à des hommes et des femmes de pouvoir manger. Et quelqu'un qui est à Boma va attendre 24 heures, 48 heures ou 72 heures un camion qui vient de Béni avec de la viande. Et ceux qui vont pêcher du poisson à Matadi ou autre vont pouvoir envoyer leur poisson directement là. Mais pour ça, il faut une route. Il faut des autoroutes. Donc moi, je verrais pour des grandes autoroutes de 12 bandes, parce que nous avons la possibilité de le faire. Nous n'avons pas de goudron dans notre pays, mais nous avons du béton, nous avons du ciment, nous avons du sable. Ça, nous l'avons. Nous avons la matière première. Donc nous pouvons construire les autoroutes. C'est juste une question de volonté. Ça ne coûtera pas des milliards. Ça coûtera quelques millions et de la volonté. Les gens d'aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires, n'ont pas cette volonté-là. Ils ne comprennent pas que l'économie ne se développera pas si le Congo est enclavé. Même lorsqu'on parle des déplacés, 8 millions de morts, 6 millions de déplacés, des gens qui vivent comme des animaux. Vous savez pourquoi ils sont déplacés? Parce qu'il n'y a pas de route. Comment les gens qui fuient la guerre peuvent arriver en ville? Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de route. Ils marchent à pied pendant des kilomètres, ils tombent malades, ils meurent, ils se contaminent les uns et les autres. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de route. Et comment les gens, pendant 10, 15, 20 ans, n'ont pas l'intelligence de se dire, bon, on va commencer à construire une autoroute qui fait ne serait-ce que Kinshasa, Mbujuma, il y a pas ça, par Kananga, Chikapa, aller de là jusqu'à Lubumbashi. Une autre route qui commence à Kinshasa, qui passe par Mbandaka, Bumba, Kisangani, jusqu'à Goma. On en a déjà deux grandes. Ensuite, on crée des artères entre Goma et Beni, Goma et Lubumbashi, Kisangani et Mbujumai, etc. Rien que ça, il ne faut pas être un génie, il ne faut pas faire bac plus 1000 pour comprendre que rien que ça, ça va développer notre économie. Mais il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de vision politique pour ça. Voilà le problème que nous avons. Et voilà pourquoi notre économie ne tourne pas. Et voilà pourquoi l'éducation, elle doit être faite par rapport à ces ambitions-là. On ne va pas former des philosophes alors qu'on n'a pas à manger. Il faut former des ingénieurs qui vont nous construire des routes. Il faut former des ingénieurs qui vont nous aider, des agronomes qui vont nous aider à développer l'agriculture congolaise. C'est dans ce sens-là. La politique de l'éducation doit être basée sur la réalité et pas sur des fantasmes. Il faut avoir bac plus... On envoie des enfants à l'université pour avoir bac plus 1000, mais on n'a pas de médecin capable de pouvoir les soigner. Voilà le problème que nous avons.
Vous évoquez déjà la question liée à la santé, Monsieur Kazadi. Plusieurs épidémies sont régulièrement signalées en RDC. Quelle place vont occuper les questions justement liées à la santé dans les priorités de votre gouvernement si vous êtes élu président de la République?
La première chose dans la santé, est-ce que vous savez que la meilleure manière de soigner les gens, c'est d'éviter qu'ils tombent malades. C'est le numéro un, éviter que les gens tombent malades. Pour que les gens ne tombent pas malades, il faut les créer des conditions de vie décentes. Lorsque les gens vivent où il y a l'eau sale, lorsque les gens boivent de l'eau qui n'est pas potable, de l'eau de pluie et autres, ça crée des maladies infectieuses. Donc les gens veulent lutter contre les conséquences, alors qu'on doit d'abord lutter contre les causes. Qu'est-ce qui crée les maladies au Congo? Pourquoi on a autant de moustiques? D'où viennent ces moustiques? C'est la saleté. Manque de propreté. Les villes ne sont pas nettoyées. On n'a pas suffisamment de poubelles. Vous comprenez? Rien que ça. Et puis, il faut faire de la prévention. La prévention, il faut dire aux Congolais. Il faut leur dire, tel endroit, il ne faut pas y aller. Tel endroit, il faut se nettoyer les mains. Tel endroit, il faut faire ceci. Il faut de la prévention. Il faut leur dire, à tel âge, il faut faire du sport. Beaucoup de gens meurent d'AVC dans notre pays. C'est un fléau. AVC, beaucoup de gens sont hyper tendus, souffrent d'hypertension. Ils ne savent pas qu'ils doivent faire du sport. Que le sport, c'est la santé, par exemple. Et ensuite, nous devons rééquiper les centres de santé et permettre, et ça c'est un projet personnel, la diaspora congolaise investit, envoie chaque année, selon les chiffres du FMI, 10 milliards. 10 milliards la diaspora, elle envoie chaque année. Pour leur famille. Dans ces 10 milliards, puisque ça passe par des organismes comme le Western Union, MoneyGram, etc., nous pouvons nous arranger avec ces organismes et prendre ne serait-ce que 10, 15 ou 20% de cet argent et le mettre directement, l'injecter directement dans la santé. Et je suis sûr que chaque Congolais qui donne de l'argent, s'il sait qu'il a donné 100 euros et que 10 euros a été récupéré par l'État congolais pour la construction d'un hôpital ou pour la gratuité de certains soins basiques, la diaspora le fera. On peut gagner, rien qu'avec ça, 2-3 milliards qu'on ponctionnera directement sur la diaspora. Si on leur explique que cet argent que vous envoyez, on prend une partie de cet argent pour financer la santé de vos proches. Certaines personnes diront c'est mieux l'État, comme j'envoie de l'argent, une partie est récupérée par l'État. C'est normal que mon enfant, mon cousin, mon grand-père puisse avoir des soins médicaux gratuitement. Vous comprenez ? Donc il faut mettre en place comme une espèce de mutuelle qui permettra la gratuité de la santé, étant donné que dans notre pays, les Congolais n'ont pas d'argent. 90% des Congolais n'ont pas les moyens de se soigner. Donc on doit mettre en place un système de santé qui est sponsorisé, supporté, une partie par l'État, une partie, je pense, par sa diaspora. Et je pense que la diaspora congolaise sera heureuse de contribuer et de participer à ça.
On constate de plus en plus, pour finir notre entretien, on constate de plus en plus des cas d'intolérance au milieu des populations, des manques de cohésion nationale, et plusieurs organisations en appellent à la cohésion nationale. Est-ce que vous êtes aussi d'avis qu'il faut renforcer la cohésion en RDC et comment comptez-vous vous y prendre?
Pour renforcer la cohésion au niveau du pays, il faut renforcer la justice. Là où il y a des problèmes, c'est là où les personnes ont l'impression que le comportement de certains n'est pas juste. Lorsque certaines personnes ont l'impression que certains clans ou certains groupes sont privilégiés. Vous comprenez ? Et puis, une dernière chose, ce sont les discours de nos responsables politiques. Moi, je suis contre certains qui peuvent tenir des discours où ils qualifient 22% de la population, presque 23 millions de Congolais, de talibans. C'est irresponsable. On ne peut pas vouloir rassembler le peuple en divisant parce qu'on a besoin du soutien de sa base, entre parenthèses, ethnique. Ça doit cesser. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision nationaliste, comme l'a été nos pères de l'indépendance, Lumumba, Okito, comme un de mes maîtres, Pierre Moulélé, vous comprenez ? Comme a pu l'être aussi Tshisekedi wa Moulumba. Ce n'était pas le chef d'un clan, c'était le chef pour tout le monde, pour tout le Congo. Ce sont des hommes qui sont battus pour l'unification du Congo. J'ai entendu un historien dire que le Congo, dans le Congo actuel, est une création belge. Je dis c'est faux, parce que nous avons eu notre indépendance en 1960. Si nous voulions en 1960 diviser le Congo, on l'aurait divisé, puisqu'il y avait déjà eu la sécession du Katanga et autres. Mais des gens comme Lumumba se sont battus pour que la RDC reste un et indivisible. Et aujourd'hui, le Congo est un et indivisible. Et c'est la responsabilité des hommes politiques d'arrêter de prendre des camps, de diviser les Congolais. Et puis, on a besoin de plus de justice. Les Congolais doivent se retrouver partout. Il n'y a pas de raison que certaines personnes soient privilégiées par rapport à d'autres, juste en raison de leur naissance. Ça, c'est scandaleux. Aucun Congolais ne peut supporter ça.
Alors, Monsieur Kazadi Rex Kazadi Kanda, voilà, candidat numéro 10 à l'élection présidentielle du 23 décembre 2023. Merci de vous être livré à cet exercice avec Radio Okapi. Mais avant de nous séparer, on va vous demander de fixer la caméra. Vous allez fixer la caméra et dire quelque chose ou lancer un message à tous ces Congolais qui nous suivent, pourquoi ils devraient voter pour vous.
Peuple congolais, jeunesse congolaise, toujours délaissée, mise à l'écart. Vous avez le 20 décembre la possibilité de vous faire entendre. Votez pour un homme qui va radicalement changer les choses. Votez pour un homme qui est incorruptible. Votez pour un homme qui ne s'intéresse pas à sa propre famille et à ses propres amis ou à son propre clan. Votez pour un homme qui est rassembleur, un homme qui aime la patrie, un homme qui aime le Congo, un homme qui voit le Congo de demain grand. Merci. Votez numéro 10.
Merci beaucoup, Monsieur Kazadi. Merci, Michel, et à la prochaine.
Merci beaucoup, Kelly.
Merci beaucoup.
Venez de suivre l'invité candidat président, élection 2023, sur Radio Capi.